Mes amis, dans les réflexions de l'homéliste à chaque dimanche, généralement c'est l'évangile qu'on met au centre. Et c'est l'évangile en fait dans la liturgie de la parole qui donne le ton aux commentaires. Mais ce dimanche, je voudrais faire une exception parce que je voudrais mettre l'accent plutôt sur la deuxième lecture qui est un très beau texte de plusieurs personnes, plusieurs spécialistes, le troisième chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens est parmi les meilleurs textes de toute l'humanité sur l'hymne de l'amour. D'ailleurs, Edith Piaf, qui a chanté sur l'amour, s'est inspirée aussi de cet hymne-là à l'amour. Voyez-vous, j'ai eu l'occasion de travailler dans une paroisse où j'ai célébré 50 mariages par année. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand le couple devait faire le choix de lecture, la grande majorité mentionnait ce texte-là du 13e chapitre de Paul aux Corinthiens, de la première épître. Et puis, curieusement, aujourd'hui, après la messe de 9h, il y a une personne en couple qui est venue devant moi et dit « Vous avez parlé de l'amour aujourd'hui, tu sais quoi ? Ma femme et moi, nous fêtons le 68e anniversaire de notre mariage. » J'ai fait « Waouh, c'est quelque chose !» Et puis après, un autre couple qui vient, il me dit « Tu sais, eux, ils fêtaient 48e. » Il m'a dit « Tu sais, pour moi, l'amour, c'est ma femme. » M'a-t-il dit. Il dit « Oh, c'est quelque chose ouais. !» Donc, ce texte-là, en fait, nous fait réfléchir, nous fait parler de l'amour. Mais quand on regarde de près, le Seigneur nous invite à entrer en profondeur, Paul nous invite à aller en profondeur, aller à l'essentiel. Mais pour mieux saisir ces textes-là, il faudrait relever le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? Voyez-vous, à Corinthe, après la prédication de Paul, l'Église, la communauté est restée en effervescence. Il y a eu beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions que le Seigneur a données à cette petite communauté. De telle sorte que il y a eu beaucoup de charismes qui ont commencé à apparaître, le don du Saint-Esprit. Parmi les Corinthiens et les Corinthiennes, il y en avait qui prophétisaient par la force de l'Esprit. Et il y en a aussi qui faisaient des miracles, des choses grandieuses. Il y en a qui imposaient les mains et puis il y avait des guérisons qui arrivaient dans la communauté. Il y en avait qui parlaient en langue, qui parlaient la langue du monde. Ça impressionnait. Mais maintenant, malheureusement, les membres de la communauté n'ont pas su gérer ces dons-là. Il y a commencé à avoir de la compétition entre les personnes qui avaient des charismes. Commencer à avoir de la rivalité. Certaines personnes disaient, parce que moi j'ai le don le meilleur, je peux prophétiser, donc je prendrai la direction de la communauté. Parce que moi j'ai fait des miracles, j'ai fait des guérisons, alors c'est moi qui ai le don le meilleur, alors moi je donnerai le ton à la communauté. Moi je parle toutes les langues du monde, j'ai la science de Dieu, c'est moi qui dois diriger la communauté. Division, conflit, tension dans la communauté. Cela arrive aux oreilles de Paul. C'est ainsi qu'il écrit cet épître, cet extrait-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes amis, j'entends dire qu'au milieu de vous, vous êtes en train de chercher le don le meilleur. C'est très bien, je vais faire comme vous. Entrons dans la danse, entrons dans le jeu. Moi aussi, je vais vous dire, c'est quoi mon don? C'est quoi le don le meilleur qu'il faut avoir? Alors il commence à dire, vous savez quoi? Si vous faites des miracles, si vous parlez toutes les langues du monde, vous n'avez pas l'amour, ça rime à rien. Ah, vous dites que vous faites des prophéties, vous avez la science de Dieu, vous connaissez toutes les choses du monde, eh bien, faites-le. Mais si cela ne provient pas de l'amour, ça rime à rien. Et puis continue, et même si tu as une grande foi, tu peux dire à cette montagne, la montagne, lève-toi, va, entre dans la mer. La montagne se lève, va dans la mer. Mais si tu n'as pas d'amour, ça vaut rien. Même, il dit, tu peux donner tous tes biens aux pauvres. Tu peux brûler ton corps pour ta foi. Mais si tout cela ne se base pas sur l'amour, tu perds ton temps. Alors, on commence à dire, Alors, je vais vous dire, c'est quoi l'amour? L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'emporte pas, il n'a pas de rancune. L'amour espère tout, l'amour supporte tout. C'est cela qu'il faut chercher. Et à la fin de l'épître, il termine avec une chose fantastique, parce qu'il a dit finalement, vous savez quoi? Celle qui compte vraiment sur la terre, c'est l'amour. Les autres choses vont s'écrouler. Alors, il présente ce qu'on appelle les vertus théologales. Il dit par exemple, la foi que nous avons aujourd'hui, la foi en Dieu. Mais ça va disparaître. Comment ça? Eh bien, le jour où nous verrons Dieu face à face, on n'aura plus besoin de foi. À quoi ça va servir? On le voit, on parle avec Dieu, on n'a plus besoin de foi. Il dit, le jour où on verra Dieu, l'espérance dont nous parlons, ça va disparaître. On ne va plus espérer avoir la vie éternelle, espérer avoir Dieu. On sera avec Dieu face à face. Tout ça, ça va tomber. L'amour, dit-il, va durer. Même quand on verra Dieu face à face, encore faudra-t-il continuer à l'aimer, dit-il. Donc, c'est l'amour qui est la chose la plus importante, la vertu la plus importante. C'est ce qu'il faut maintenir dans la vie, dit-il. Voyez-vous, à Nazareth, quand notre Seigneur est retourné chez lui, les gens de son village l'ont accueilli au début, mais à la longue, ils se sont fatigués et ils ont commencé à le bouder. Pourquoi? Parce que lui est arrivé et comme amour, il leur a parlé de cet amour inconditionnel de Dieu, de cet amour qui est ouvert à toutes les nations, de cet amour sans frontières, l'amour qui se projette vers les exclus, vers les malades, vers le plus pauvre. Et les gens de Nazareth voulaient enfermer Jésus dans leur image. Pour eux, Jésus c'est le fils de Joseph, c'est lui qui a vécu chez nous, il s'occupait du bois et puis il a vécu 30 ans ici, on n'a rien vu d'extraordinaire. Mais maintenant, c'est quoi qui vient nous chanter là? C'est quoi qui vient dire? Alors, ils se sont enfermés dans leur image qu'ils se sont fait de Jésus. Ils n'ont pas accueilli sa parole. Maintenant, le danger pour vous et moi, c'est enfermer Jésus dans un contexte, dans un cadre propre à nous. Que nous pensons, bon, notre Seigneur est avec nous, il est contre les autres. Parce que le Seigneur est avec moi, moi je ne souffrirai jamais. Comment ça se fait que je souffre? Parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi, alors moi je n'aurai jamais de malheur. Comment ça se fait que j'ai des malheurs? Nous enfermons Jésus dans des images tronquées de foi. Vous vous rappelez, même quand vous allez dans l'histoire, il y a des personnes qui ont voulu faire de Jésus un révolutionnaire. Jésus était un révolutionnaire, disaient certains. Ils ont voulu le mettre dans un cadre bien confiné. Certains disaient, ben non, lui là c'est un socialiste. Il est venu nous parler des pauvres, d'aider les pauvres, d'être toujours avec les pauvres. D'autres qui disaient encore, mais non, Jésus c'est un sage, c'est le plus sage des hommes. Jésus c'est un vertueux. Voilà ce qu'il est venu nous dire, etc., etc. Et même, vous vous rappelez, dans les années 70, le chanteur français Johnny Hallyday, lui dira hey, Jésus est un hippie. Ouais, donc on le met dans des cadres et des cadres. Chacun dit sa chose et puis chacun veut donner son image à lui qui est l'image de Jésus. Mais maintenant, si nous enfermons Jésus dans ce cadre-là, comme les gens de Nazareth, nous ne serons pas en mesure de l'accueillir. Nous ne serons pas en mesure de grandir dans sa connaissance. Il y a toujours la transcendance de Jésus. Jésus dépasse nos schèmes de pensée. Jésus ne peut pas être enfermé dans notre cadre de compréhension. Il dépasse tout cela. Les images qu'on peut avoir peuvent nous aider à l'aborder, à grandir dans sa connaissance. Mais on ne peut pas l'enfermer dans ces contextes-là. Voilà la grâce qu'on va demander aujourd'hui, de ne jamais enfermer Jésus dans ce que nous pensons, que nous connaissons totalement sur lui. On ne le connaît pas à 100%, il nous échappe toujours, c'est une pierre d'achoppement. Alors il faut toujours dépasser et grandir dans sa connaissance. Voyez-vous, Jésus qui est un amour inconditionnel. S'il faut faire un rapport avec ce que Paul nous dit aujourd'hui dans son épître, ça serait facile. Si tu prends le texte tel que Paul nous le présente, eh bien, tu t'es dit, moi j'enlève le terme « amour », je place Jésus dessus. Tu vois, ça sera très facile. Tu dis, Jésus prend patience. Jésus rend service. Jésus ne se vante pas, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne garde pas rancune, il supporte tout, il endure tout. Voyez comment les choses s'égalisent, les choses riment, voyez-vous. Mais maintenant, allez, à supposer que nous mettons notre curé là-dessus. Mettons, notre curé est toujours patient. Notre curé ne cherche jamais son intérêt. Notre curé ne s'emporte jamais. Là, je me sens tout mal à l'aise, je me sens croche là-dedans. Difficile d'être là. On doit grandir là-dedans. Mettons nos maris. Mon mari prend toujours patience. Mon mari ne se vante jamais. Mon mari ne cherche jamais son intérêt. Il ne se gonfle jamais d'orgueil. Nos femmes, mettons nos femmes. Ma femme ne cherche jamais son intérêt. Elle ne pique jamais des crises de jalousie. Ma femme supporte tout. Elle ne s'emporte jamais, garde jamais rancune. Voilà, on se dit, l'équilibre et puis l'équation ne semble pas bien tourner, voyez-vous. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, vous et moi, on va demander au Seigneur de nous permettre de grandir dans cette équation-là. Que cet amour que Paul nous propose, eh bien, que ce soit un amour qui se concrétise en nous. Qu'on essaie de le vivre vraiment, continuellement dans notre vie. Et en se rappelant aussi que l'amour, c'est ce qui est au cœur de tout. L'amour, c'est ce qui est essentiel. Et Jésus est amour. Alors nous sommes aussi appelés à devenir amour, comme Dieu est amour. Alors c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, en recevant l'Eucharistie, qui vient nous donner cette nourriture spirituelle. Eh bien, que notre cœur, que notre âme s'ouvre davantage à l'amour, mais surtout, que le Seigneur nous donne sa capacité, la capacité, et puis les dons, le pouvoir de accueillir cet amour qui vient de lui, pour qu'en notre mesure, nous sachions répondre à l'amour de Dieu comme il se devait. Alors on va demander cette grâce-là ensemble, et que vous et moi, on continue à grandir dans cette vocation chrétienne, en fait, qui est une vocation d'amour. Amen.